Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Actualité chaude dans cette nouvelle année pour le gouvernement. En un mois, la rue a vu défiler tour à tour personnel de prison, personnel médicaux des EHPAD et maintenant les agriculteurs. En cause à chaque fois le manque de sous, les temps sont à l'économie, mais comment faire quand certains n'ont pas déjà de quoi vivre ou presque. L'actualité de ce mois-ci, ce sont aussi les sujets internationaux. Deux aujourd'hui qui ont été retenus, conflit en Syrie ou dernière réplique de l'anniversaire de la révolution de 1917 en Russie. Bref, de quoi débattre. Ils sont là vaillamment avec nous, nos invités de l'émission Le Grand Débat de Vivante Église. Anne de la Doucette, initiatrice donc de la formation en anthropologie chrétienne à Toulouse, passeur d'espérance en lien avec les Dominicains de Toulouse. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Daniel Cabanis, professeur émérite de droit à l'Université Toulousain Capitole et chroniqueuse géopolitique à Radio Présence. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel.
Et Tanguy Marie Pouliquin, prêtre de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous.
Premier sujet, la Russie. Voilà, on avait un peu loupé le coche avec l'anniversaire de la révolution de 1917. Il faut dire, on va voir que peut-être que cet anniversaire était discret. Et puis Daniel Cabanis m'a soufflé à l'oreille l'idée d'en reparler à l'occasion de l'interdiction de la diffusion d'un film en Russie intitulé « Mort de Staline », réalisé par un certain Armando Iannucci, je ne sais pas si je prononce correctement. Ce film a été, ce long métrage a été jugé offensant, extrémiste. Nikita Mikhalkov, qui est donc un grand cinéaste russe et qui est un peu la référence de Poutine sur... en matière de culture, enfin on a l'impression, personne influente en matière de culture auprès de Poutine a dit que ce film n'était pas diffusable, et bref, le ministre de la Culture a perçu ce film comme une raillerie insultante envers le passé soviétique. J'ai regardé juste le teasing rapide du film, vu de très loin, ça paraît juste drôle. Bon, Daniel Cabanis, quel est votre commentaire sur cette interdiction ?
Bon, moi j'ai eu la même impression en regardant la même chose, parce que je n'ai pas vu le film au complet, ça ne m'a pas paru très, très choquant. Mais ce qui est en revanche intéressant, c'est subitement ce virage, parce que depuis Nikita Khrouchtchev, il y avait vraiment eu un enterrement de première classe pour Staline, considéré comme celui qui avait dévoyé la révolution, ceux qui revenaient après lui la remettant, bien entendu, sur les bons rails, donc sur le bon chemin. Et maintenant, on a l'impression que, dans une perspective qui est nationaliste, tout ce qui touche au passé de la Russie, ça fait partie d'un tout. Et qu'on ne peut pas détailler, d'un côté Staline qui serait le méchant, mais les maréchaux qui auraient été grands. Donc si on touche Staline, on touche les maréchaux, les glorieux, entre guillemets, vainqueurs de l'armée rouge. Donc on crée une omerta complète sur le passé, mais ce n'est pas la première fois que certains sujets sont considérés comme inabordables parce que politiquement incorrects dans l'optique dans l'optique soviétique. Si on se rappelle par exemple ce qui s'était passé en Pologne avec l'exécution systématique des officiers de l'armée polonaise, pendant très très longtemps, on nous a fait croire, et on a peut-être voulu croire aussi, peut-être que ça arrangeait une certaine intelligentsia, que c'était le fait des nazis, alors que c'était le fait des communistes. Et le film qu'en a tiré le cinéaste André Vaïda, qui est un beau film esthétiquement et surtout de réflexion sur le fond, a été très 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 peu projeté. Les grands distributeurs ne voulaient surtout pas prendre le risque de le projeter parce que c'était s'en prendre à une sorte d'icône, c'est-à-dire le monde de la gauche. C'était même pas les communistes, c'était le monde de la gauche. Donc c'est un réflexe vraiment de globalisation du passé. Les Français, on ne peut pas donner non plus de leçons absolues en la matière. Regardons la peine que nous avons lorsque nous parlons de la période de la Révolution française à accepter que, même si on ne regrette pas les changements dans leur ensemble, mais à accepter que certaines phases aient été horribles, insupportables, négatives.
Il faut dire aussi donc que le film a été interdit juste une semaine avant la célébration du 75e anniversaire de la victoire soviétique de Stalingrad contre l'Allemagne nazie.
Tout à fait.
Voilà, donc ça ajoute au contexte. Anne de la Doucette, un commentaire.
Alors peut-être qu'il y a un changement avec Poutine de forme de nationalisme plus impérial, plus proche de l'Église, et qu'on sent que cette Russie est quand même marquée par ce siècle où la population a été divisée entre, bon, il y a les Russes blancs qui sont partis, il y a les bolcheviks, il y a eu ces communistes, et qu'il y a peut-être un souci de ne pas trop remuer les choses pour rassembler, quand on lit les commentaires des articles sur les Russes, certains sont des descendants de paysans russes qui, grâce aux communistes, sont arrivés à monter dans l'échelle sociale et regrettent justement que ça soit passé, ces manifestations n'étaient pas plus de place. Et puis d'autres, au contraire, sont des Russes blancs qui sont partis, dont les familles ont été décimées. Et on sent que eux trouvaient ça bien qu'on n'en parle pas trop. Donc peut-être qu'il y a un besoin que la nation se ressoude et de pas trop parler de tout ça, de laisser le temps de que les choses se passent.
Tanguy Marie Pouliquen.
Alors on peut situer aussi cette interdiction dans le contexte des élections, où tout l'enjeu électoral est quand même clair, c'est de passer au premier tour, et pour passer au premier tour, il faudra avoir toutes les voies possibles, donc de ratisser large, de ratisser aussi à gauche. Poutine n'a pas hésité aussi à qualifier de Lénine de saint. C'est quand même des terminologies qui font bourdonner les oreilles. Quand on pense à tous les morts qui suivront l'action politique, non seulement de Lénine, mais de Staline. Mais en arrière-plan, si on veut s'inscrire dans un autre domaine culturel que le nôtre, ce qui régule l'éthique sociale orthodoxe, russe orthodoxe, c'est pas la personne, c'est pas le respect des personnes, c'est la nation. C'est la nation qui est la porte d'entrée dans la compréhension de l'éthique sociale pour les Russes orthodoxes. C'est-à-dire l'histoire, les valeurs culturelles, les équilibres passés, ici on pense à la notion de superpuissance, à la place de la Russie, de l'URSS dans le concert des nations, donc à la place aussi peut-être de la primauté pratique de l'Église orthodoxe russe par rapport aux autres églises sœurs, donc la notion de nation, et on comprend que si on veut mettre en parallèle avec la Pologne, où la notion de nation croise la valeur centrale aussi de l'Occident, de la personne-nation. Actuellement, cette loi qui vient de passer, qui vise à interdire de parler de camps de concentration polonais, hein, sous le versant institutionnel, hein, comme s'il y avait une institutionnalisation par les Polonais de certains camps polonais de concentration. Donc l'histoire est revisitée. On comprend pour la Pologne, qui pendant 150 ans a été sous domination étrangère, etc., de vouloir se réapproprier son histoire. Jusqu'où, quelles sont les lignes rouges pour nous occidentaux. Mais entendons le contexte particulier, et puis le biais culturel qui n'est pas le même, avec la porte d'entrée de la primauté de la nation.
J'avais juste noté que lors de cet anniversaire, donc c'était en octobre 2017, Vladimir Poutine avait donc inauguré un mur du chagrin dévoilé avenue Sakharov, donc en l'honneur du défunt, donc dissident soviétique prix Nobel de la paix. Et il avait déclaré à cette occasion: ce passé terrible ne peut pas être effacé de la mémoire nationale et ne peut en être en aucun cas justifié. Il ne peut y avoir aucune justification à ces crimes. Les répressions politiques sont devenues une tragédie pour notre nation et notre société. Nous en sentons les conséquences jusqu'à ce jour. Et on l'a critiqué. Je note juste, pardon, pour pièce au débat, si vous avez un dernier commentaire, qu'en même temps, semble-t-il, un buste en bronze de Joseph Staline a été inauguré à Moscou à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution de 17. Mmh. Bref,
un équilibre.
C'est quand même... Est-il normal d'être choqué de loin ou faut-il constamment recontextualiser ce genre d'événement, Daniel Cabanis ?
En fait, je ne crois pas qu'il y ait une réponse absolument univoque. Si on se place sur le terrain des valeurs occidentales, c'est choquant parce que on avait le sentiment que les Russes avaient fait un certain ménage, avaient digéré leur passé, reconnu que dans ce passé, il y avait des moments épouvantables qui étaient le fait de Russes et pas simplement de gens extérieurs. Et on part souvent de l'idée que lorsqu'on reconnaît les erreurs qu'on a faites, il y a plus de chances qu'on ne les refasse pas et qu'on ait des comportements plus ouverts. Mais comme le disait le père tout à l'heure, il est vrai que les Russes ont un mode d'analyse qui est totalement différent du nôtre, dans lequel la place de l'individu est moindre. Alors, les meilleurs sont théoriquement moins exaltés, sauf quand ils sont les dictateurs, mais les moins bons ou les carrément mauvais sont moins fustigés aussi. Ils finissent par disparaître un peu. Ils sont gommés.
Deuxième sujet, donc la Syrie, ou plus particulièrement les enclaves kurdes. Là, c'est l'enclave kurde d'Afrin, où donc la Turquie a donné l'offensive, 20 000 hommes, ai-je lu, assaut baptisé Rameau d'Olivier, douce ironie, le but étant pour le président Erdogan d'éviter tout morcellement du territoire turc et donc d'attaquer les Kurdes qui ont pris une partie du territoire à l'occasion du conflit syrien. Je voudrais juste, pour lancer la conversation, faire écho à une tribune parue dans le Figaro Vox d'une certaine Céline Pina, essayiste, auteur d'un livre « Silence coupable », paru aux éditions Kéro, qui dit la chose suivante, qui s'offusque en fait de la réaction des pays occidentaux. « Ils méritaient notre reconnaissance, ils ne rencontrent que notre trahison », rappelant que sur le terrain, ce sont les jeunes femmes et jeunes hommes kurdes qui, en 2014, ont arrêté l'État islamique à Kobane. Daniel Cabanis, un commentaire.
C'est toute l'ambiguïté, une fois de plus, de la politique turque, parce que les Turcs, depuis Atatürk, ont défini un système politique absolument unitaire dans lequel on nie toute identité autre que turque, qui est d'ailleurs en partie imaginaire, le Turc, comme ça, in abstracto, il n'existe pas vraiment. Mais on ne veut pas qu'il y ait de distinction. Donc, à partir du moment où, depuis pas mal d'années, il y a un mouvement autonomiste, à défaut de dire indépendantiste, parce que c'est pas tout à fait la même chose, kurde, qui a des échos en Irak, en Syrie et en Iran. Les Turcs, ne voulant rien entendre, ne voulant rien savoir de cela, se condamnent eux-mêmes à être offensifs à l'égard des Kurdes à quelque occasion que ce soit, et là, à violer le droit international, puisqu'ils sont intervenus hors de leurs frontières, pour s'en prendre à des gens qui, dans la majeure partie des cas, ne sont pas des ressortissants de la République turque, mais des Kurdes locaux. Hein. Donc, c'est du point de vue du droit international, c'est extrêmement grave.
Intervention donc en Syrie.
Oui.
Il y a pas de, comment dire, d'enclave kurde, en l'occurrence en Turquie.
Ah oui, mais il y a tout l'est du pays qui est
20 millions
qui
est kurde. Il y a 20 millions de Kurdes.
Là, en tout cas, les attaques, 15 millions de les attaques sont en Syrie.
Les attaques ont lieu en Syrie,
mais,
oui.
Mais l'opposition en Turquie même a été totalement muselée, puisqu'on attaque, ils les considèrent comme des terroristes. Toute manifestation contre ce Rameau d'Olivier est sévèrement réprimée.
Et alors, quid des réactions donc des gouvernements occidentaux? J'ai pu lire que un porte-parole du gouvernement avait argué des légitimes préoccupations turques, et donc ça a choqué, c'est entre autres cette Céline Pina qui considère qu'on va jusqu'à reprendre les éléments de langage en fait du gouvernement turc. Tanguy Marie Pouliquen.
Moi je pense qu'il faut mettre en perspective historique là aussi cette question, sur à peu près un siècle, là aussi, il y a un grand ressentiment dans la communauté kurde lié à des promesses non tenues par les Occidentaux. Le traité de Sèvres 1919, après annulé du point de vue de l'impact de la question turque par le traité de Lausanne, sous l'influence d'Atatürk, qui renégocie avec les Occidentaux, et la promesse d'une enclave, d'un État kurde n'a pas été tenu par les Occidentaux. D'où, le temps passant, avec la création de de l'Irak. Hein. L'Irak date est assez récente. La déconstruction de l'Empire ottoman, la création de Liban, Irak, tout ça, c'est de l'après-guerre. Hein. Les jeunes générations n'ont pas conscience que c'est des États finalement jeunes qui doivent retrouver leur identité, on pourrait dire, leur puissance étatique, l'unité de leur pays de manière assez jeune. Et ceux qui payent le tribut, c'est 15 millions de Kurdes en Turquie, c'est 15% de la population en Syrie, c'est 15% en Syrie, et à peu près 11 millions de Kurdes en Iran. Donc on comprend qu'il y a une aspiration larvée dans cette région à vouloir se constituer en tant que peuple, en tant que puissance, parce que c'est une nation, et en tant qu'État, comme le permet la Déclaration des droits de l'homme, à tout peuple de se disposer d'eux-mêmes. Donc entre les intérêts politiques circonstanciés, la visite de Erdogan chez le pape cette semaine, le pape était très clair, c'est la prise de position du pape à la fin de cette rencontre, c'est la paix. Point barre. Ce ne sera jamais la guerre qui va délimiter la paix entre les frontières. Donc il faut plutôt dialoguer que passer en force. Il y a des intérêts aussi de politique interne, hein, un pouvoir fort, les élections l'année prochaine, présidentielles.
Mais je me permets de reposer ma question. C'est vrai que vu de loin, on se dit que les Kurdes ont combattu avec la coalition internationale et que là, en fait, on les laisse tomber. C'est...
Oui, alors il n'y a pas d'accord dans la coalition entre les pays pour créer un État kurde. Il n'y a aucun accord. Pas d'accord.
Il y a quand même trois partis kurdes selon les pays. Parce que celui qui est en Syrie est plus marqué que les autres. Et c'est vrai qu'on les a un peu laissés tomber. Mais moi, ce qui me frappe dans tout l'avancement de cette guerre, c'est que c'est quand même ces pays occidentaux qui, là, ne prennent pas parti, ne se mouillent pas, sont quand même à l'origine de ce chaos. Sous des prétextes géostratégiques cachés et de démocratie ouverte. On dit on est pour la démocratie, on veut déstabiliser toute cette région. Ils l'ont totalement déstabilisée et maintenant qu'ils s'en lavent les mains en laissant les choses se faire, tout en étant avec les États-Unis. Ils sont alliés de la Turquie, les Occidentaux. Donc ils ne vont pas prendre parti pour les Kurdes alors qu'ils sont alliés de la Turquie.
Dernière chose, avant qu'on fasse une première pause, j'aimerais juste qu'on fasse écho au sommet de Sochi, qui a eu lieu c'était en janvier. Sommet qui a été présenté globalement comme un échec, puisque le principal regroupement en fait des partis de l'opposition ou des membres de l'opposition, comité des négociations syriennes CNS, a séché la table des négociations, arguant que le régime mise sur une solution militaire et ne montre pas de volonté de s'engager dans un processus de négociation politique sérieuse, et arguant des attaques donc qui ont lieu contre les Kurdes en Syrie. Qu'est-ce qu'on peut dire, Daniel Cabenis? On a lu en long, en large et en travers que Vladimir Poutine était le nouveau maître des lieux, et là, vu de très loin, une fois de plus, mais vous êtes là pour nous éclairer, on a l'impression que ça patine.
De toute façon, si puissant qu'il soit, Vladimir Poutine ne maîtrise pas du tout le président Bachar el-Assad, qui a parfois des réactions surprenantes, inattendues, qui est bien déterminé à liquider tout ce qui ressemble à de l'opposition à son régime. Donc il joue des jeux très très compliqués, changeant d'adversaire au gré des circonstances. Et Poutine le soutient parce que ça lui donne un point de force, et c'est toujours l'éternelle histoire, son accès à un port méditerranéen. Donc Poutine restera derrière Bachar pour cette raison-là, quitte à se déjuger de temps en temps dans ses positions par rapport à tel groupe de rebelles.
Et pourtant, le rapport de force n'est pas en faveur de Bachar el-Assad, vu de loin aussi. On pourrait avoir l'impression que Poutine a toute latitude pour lui imposer la paix qu'il souhaite, ou...
Oui et non, mais il sait quand même que Bachar el-Assad, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler à son endroit, a un atout entre les mains. Il est issu d'une minorité, donc il est obligé de respecter, et c'est ce qui a fait sa force hein, pendant très longtemps, les minorités. Et les chrétiens n'ont pas eu trop à se plaindre de lui, de ce fait-là. C'est pas très moral, mais c'est vrai.
Donc de fait, les Alaouites, qui sont une minorité active, toute l'armée tenue par les Alaouites ont eu historiquement, je dirais suite à c'est Hafez el-Assad qui a donné le ton, une capacité dans un État laïque, c'est un État laïque, de pouvoir donner sa place à tout le monde. Donc s'il y a un intérêt occidental derrière des actes que l'on ne peut pas accepter, il y a un enjeu de philosophie politique qui est intéressant, c'est une laïcité. Et insérer dans la région à nouveau des germes de laïcité pour éviter des extrémismes religieux. Et à sa manière, le président Poutine fait le pari d'une structure d'État qui reste, qui fonctionne. La région de Damas, c'est calme. Ceux qui reviennent de Damas, moi j'ai des amis qui sont revenus de Damas, ils me disent oh, c'est calme. C'est vachement calme, hein, Damas. Hein. Les services fonctionnent, la vie fonctionne normalement, etc. Donc, la pire chose qui peut arriver, selon l'éthique sociale catholique, dans un pays, c'est la déstructuration complète de l'État. Et donc, peut-être qu'il y a un mixte de réel politique à avoir aujourd'hui entre un État qui fonctionne encore un peu, une philosophie politique laïque qui serait au service une capacité de vivre ensemble en donnant à chacun sa place. Alors jusqu'où, État fédéral, pas État fédéral, etc.
Anne de la Doucette, pour finir.
Parce qu'on a du mal à comprendre, peut-être nous, aux pays occidentaux, mais ce sont des pays claniques, il y a différentes communautés, et si ce n'est pas une communauté qui est au pouvoir, c'est l'autre. Et quand une communauté est au pouvoir, il faut qu'elle ait un pouvoir un peu fort pour assurer justement que ces différents clans puissent vivre à peu près de façon sereine entre eux. C'est pas du tout dans le même fonctionnement que nos sociétés. Et pour nous, le régime parfait, c'est la démocratie. Mais il n'est pas sûr que dans ces pays claniques, elles puissent. Est-ce qu'on a vu beaucoup, Daniel, de démocraties qui ont marché au Moyen-Orient où toutes les minorités ont été respectées? Non.
Non.
Donc
non,
il faut un pouvoir fort pour assurer que tous ces les chrétiens, les chiites, les sunnites puissent vivre en communauté sans que ça soit que ça soit en paix. Une paix qui nous paraît difficile à comprendre, mais qui soit une paix.
Rapidement, Tanguy-Marie.
La région, c'est intéressant, historiquement, est traversée par des aspirations de laïcité. Atatürk, la Turquie. La naissance de la laïcité dans la région, on l'oublie, c'est en Iran, à partir de 1905. La Syrie, après la Seconde Guerre mondiale, je dirais, s'est structurée autour d'une laïcité. Et puis le Liban,
c'est très spécial, le Liban,
particulière, ouais. Mais quand même avec le respect d'une démocratie active. Et après Israël. Donc la région a déjà des germes de structuration de l'État autour de la laïcité qui doivent s'enraciner dans le temps. Et les soubresauts actuels sont lourds.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat de Vivante Église, c'est donc l'émission de ce matin, donc émission mensuelle de débat où on revient sur l'actualité du mois, avec aujourd'hui autour du plateau, pour rappel, Anne de la Doucette, initiatrice de cette formation Passeur d'espérance en lien avec les Dominicains de Toulouse, Daniel Cabanis, chroniqueuse géopolitique à Radio Présence, entre autres, et Tanguy-Marie Pouliquin, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Zoom sur la France maintenant, je proposais, même si ce n'était pas prévu au programme, mais vous êtes tellement savant et brillant que vous aurez forcément des choses intéressantes à dire, de parler quand même des agriculteurs, difficile de faire autrement. Donc grand mouvement de colère en France, des agriculteurs en cause, donc une indemnité compensatoire de handicap naturel, ICHN, pour les zones dites défavorisées, zones entre autres d'élevage, zones à handicap naturel, particulièrement les zones de montagne, et le sud-ouest est l'une des zones les plus impactées. J'ai lu qu'en Nouvelle-Aquitaine, ça pourrait être 2000 exploitations qui mettraient la clé sous la porte. Je donne juste quelques chiffres. Dans le Tarn, c'était 300 exploitations qui étaient en jeu. Dans le Gers, 80. Et en Haute-Garonne, 180. Voilà, les politiques locaux, Carole Delga pour la région, Georges Méric pour le département de la Haute-Garonne sont montés au créneau, des annonces ont été faites, mais derrière, on a lu à nouveau ces chiffres terribles, enfin ce chiffre-là, je ne l'avais jamais lu, évidemment le taux de suicide chez les agriculteurs, on dit que c'est un suicide tous les deux jours, mais un tiers des agriculteurs gagneraient moins de 400 euros par mois. Voilà, ça c'est le dernier chiffre qui est tombé. On peut avoir vu. D'ailleurs, il y a une espèce de solidarité hein, à l'égard des agriculteurs. Quelqu'un disait ce matin, en off après la matinale, on voit bien que les policiers interviennent de manière différente selon les manifestations. Et quand c'est les agriculteurs qui débarquent dans Toulouse, on leur enlève pas leur tracteur, on les laisse avancer s'il faut jusqu'au Capitole. Quel est votre sentiment, Daniel Cabanis, là-dessus, sur un problème qui paraît. L'impression qu'il crie, il crie, il crie, et puis à chaque fois on dit on va atténuer un petit peu l'opération, mais dans le fond, la souffrance est toujours là.
Il y a le fait objectif de la souffrance, de bas revenus pour beaucoup d'entre eux. Ce n'est pas tout à fait la totalité, mais beaucoup sont très, très lourdement frappés par cela. Et puis surtout avec une situation dont ils ont le sentiment qu'ils n'en sortiront pas, qu'ils ne peuvent pas espérer une amélioration significative. Quelques emplâtres sur une jambe de bois sûrement, mais pas beaucoup plus. Donc ça crée le désespoir, d'autant plus que, indépendamment de leur activité et de ce que ça leur rapporte, beaucoup d'agriculteurs sont frappés par l'effet de désertification sociale. De plus en plus de villages n'ont plus rien comme point de rencontre. Plus de café, plus d'épicerie, plus de boulangerie, plus de bureaux de poste. Les écoles ont été regroupées, donc s'ils ont des enfants, c'est souvent des trajets lourds et compliqués. L'internat très tôt, parce que c'est pas gérable autrement. Donc tout cela crée un sentiment d'amertume et puis l'impression qu'ils sont les dindons de la farce parce que d'un côté ils comprennent le fait que beaucoup de consommateurs en France eux aussi sont touchés par des moyens extrêmement limités. Donc ils ne sont pas hostiles au fait qu'on ne vende pas trop cher leur production, mais ils se posent la question de ce qui se passe entre le moment où ils vendent et le moment où c'est revendu aux consommateurs. Et là, reste un problème bien réel avec des effets pervers de vente quasiment à perte qui font que les consommateurs deviennent exigeants. On ne va acheter que lorsqu'il y a ces ventes extrêmement basses. Donc pour les agriculteurs, c'est extrêmement difficile. Et puis le fait que malgré les efforts qui ont été faits pour valoriser leur activité, notamment en termes de formation, et en l'occurrence, si vous soulignez, on peut le dire ici vraiment, que l'Église catholique a joué un rôle déterminant, parce que c'est elle qui a été derrière les meilleures formations agricoles pendant extrêmement longtemps.
Et l'instruction des campagnes.
Complètement. Et pas seulement les écoles qui étaient tenues par des religieux, mais que la formation agricole technique était faite par des établissements religieux. Il n'est qu'à penser à Toulouse, à Purpan, hein, tout simplement, au lycée agricole de la Cadenne, qui en même temps a une action avec les apprentis d'Auteuil, donc une action sociale lourde dans le meilleur sens du terme. Et là, c'est vraiment... On sent qu'on touche à un très grand désespoir. Alors, c'est difficile d'apporter une réponse. Je me garderais bien de dire Yaka. Mais une question que je me pose souvent, c'est que le désespoir des agriculteurs légitimes tient au fait que les systèmes éventuels de subventions sont très, très encadrés, notamment par l'Europe, mais aussi par notre propre droit, parce qu'on ne se situe, me semble-t-il, que sur le terrain de la production, qui est un terrain très, très, qui est important, il ne s'agit pas de le nier. Alors que les agriculteurs, dans un État comme le nôtre, ont une autre vocation. Ils sont des gardiens de l'espace, ils sont des gardiens de la biodiversité, et à ce titre...
D'aménagement du territoire.
D'aménagement du territoire. À ce titre-là, on pourrait très bien les rémunérer, parce que le travail, ils le font. Et nous en sommes tous les bénéficiaires, nous notamment, qui sommes des citadins. Et certains pays y arrivent un peu. On y touche un tout petit peu en France avec les lois montagne. Mais ça ne touche qu'une partie des agriculteurs. On devrait trouver des pistes de ce côté-là.
J'ajoute juste un élément d'actualité, c'est que l'annonce du gouvernement a pu surprendre, puisque venaient de se clore les états généraux de l'alimentation, boycottés par Nicolas Hulot dans leurs conclusions, qui avaient entre autres pour objet de faire en sorte que les prix soient, comment dire, que les producteurs soient impliqués dans la négociation des prix. Voilà. Tanguy Marie, sur les agriculteurs, les solutions, parce que j'aimerais dire, il y a un peu unanimité sur la souffrance et sur le cri de désespoir.
Alors, au-delà des questions, des enjeux territoriaux, l'aménagement du territoire, évidemment de la philosophie libérale qui porte le regard que l'on peut apporter à la question. Moi, j'ai discuté avec un PDG d'un grand groupe agroalimentaire français qui m'a dit, c'est très clair, il y a ce qui est affiché et il y a ce qui est caché. Ce qui est affiché, bon, on va toujours soutenir les agriculteurs lorsque la crise sera bien tendue. Mais ce qui est caché, c'est que il y a une sorte de décision politique depuis une vingtaine d'années qui veut qu'il faut à peu près éliminer un tiers des fermes en France. Un tiers des fermes pour, que toutes ces petites fermes dont on a parlé avec beaucoup d'émoi, 400 euros, 800 euros, bon, des salaires nets de misère pour... un travail 365 jours par an et 10 heures par jour, pour faire des regroupements de fermes et adosser ces regroupements à des groupes agroalimentaires. Le problème de l'agriculture en France, le prix emblématique, c'est le prix du lait, 25-26 centimes. Il y en a qui disaient, on a un centime de bénéf sur le litre de lait vendu aux coopératives. Mais le problème, par exemple, si on prend le Saint-Nectaire en Auvergne, qui est vendu beaucoup dans les petites fermes, des petites fermes parfois de misère, hein, pas toutes, mais beaucoup de fermes, l'enjeu, ça serait d'adosser toutes ces petites fermes à un groupe alimentaire qui valorisait, qui apporterait de la plus-value. Comme par exemple pour le Comté. Le Comté est adossé à un groupe agroalimentaire qui achète le prix du lait, j'irais 14 centimes de plus que les 26 de moyenne, c'est-à-dire, en gros. Donc, il y a un enjeu stratégique de faire le poids, il y a un enjeu de nettoyage territorial de conditions de vie, parce qu'il y a des conditions de vie qui ne sont pas supportables, et de plus-value du pouvoir d'achat.
Mais si je peux me permettre, ce qui paraît très choquant, c'est que ça s'anticipe, ça. Quand le prix du lait a été libéralisé, on avait l'impression qu'en fait, voilà, ça faisait partie de l'équation, il fallait que, de fait, il y ait des petites exploitations qui disparaissent, et qu'il n'y avait pas eu d'anticipation politique, ne serait-ce que sur la libéralisation des prix. Ce qui paraît complètement fou, c'est...
Oui, le prix va dans une logique libérale, il suit le marché. Le prix du lait n'a pas augmenté depuis 25 ans.
Oui, mais à partir du moment où on libéralise les prix, dans les prix du lait, on peut anticiper le fait que ça va donner lieu à des fermetures, à des fins d'exploitation, et travailler à un accompagnement en amont de toutes ces personnes.
Oui, mais je pense que c'est entre guillemets ce qui se fait, mais il y a des gens, ils ne veulent pas quitter leur, leur ferme.
Oui, je crois que c'est ça aussi.
C'est des inerties familiales, mes parents habitent en Auvergne, autour de la maison il y a 5 fermes, la ferme la plus proche, le fermier vivait avec 700-800 euros net depuis 15 générations. Donc, par contre, la génération des enfants, ils ont eu 3 filles, les 3 filles ont été à l'école, elles sont toutes ingénieures, et elles ont décidé, terminé, il n'y aura plus de ferme. Hein. Donc il y a une recomposition du territoire qui se fait, et qui se fait lentement.
Mais alors, est-ce que, moi, je me pose la question, est-ce que cette recomposition du territoire est si bien, puisque plus on a cette globalisation, plus la malbouffe augmente? Et est-ce qu'il n'y a pas justement une espèce de réveil des consommateurs à, sans tomber dans la, peut-être les erreurs parfois du bio ou de la, du bobo bio, de rechercher une meilleure qualité de nourriture, d'aller plus directement, on a la chance nous dans notre région, de pouvoir aller sur les marchés, de pouvoir, c'est un peu utopique, mais pas de boycotter les supermarchés.
C'est pas présenté comme ça par les agriculteurs qui viennent en plateau ici, je peux vous dire. Ils vous disent que la relocalisation des marchés, c'est une vraie solution pour eux. Ça n'a rien d'utopique.
Eh bien, je vais vous dire, moi, je vais toujours sur les marchés. C'est moins cher et c'est bien meilleur. Mais il faut avoir, Et puis, c'est un lieu de convivial, c'est un lieu où les gens se retrouvent, c'est un lieu humain. Voilà, sur le marché, ça fait 20 ans que je rencontre les mêmes gens. Et c'est vrai que la vendeuse de coquille là le mardi, eh ben, elle gagne 400 euros par mois. À travailler 10 heures par jour. Mais voilà, on a des bons produits, c'est formidable.
Ils aiment leur métier.
Et ils aiment leur métier. Oui.
Des gens très jeunes.
Mmh. Des gens jeunes et des gens donnés. Mais je trouve que c'est aussi un travail de chaque personne, de bienveillance de la société. En disant, bon, dans les grandes villes, à Paris, c'est compliqué. Mais dès qu'on peut, dans les petites villes, il y a des marchés partout. C'est un acte de citoyen.
On passe à un autre sujet. Donc cette fois, c'est donc les manifestations des personnels soignants en EHPAD. Donc grande manifestation nationale qui a été suivie, donc appel large de l'intersyndicale. Taux de participation 10%, taux de mobilisation près de 30%. En cause des réductions budgétaires, donc d'aide de l'État d'environ 200 millions d'euros dans les prochaines années. Voilà, ce qui est ressorti, c'est que les aides-soignantes auraient 15 minutes pour faire des toilettes, je crois, toilettes, donner le petit déjeuner et remettre dans le lit. Bref, que leur cadence serait difficile et que donc il y avait des risques de maltraitance. Ça pose plus largement la question du vieillissement de la population et du traitement du traitement par la France de ce papy boom qui arrive, chantier qui avait été ouvert en son temps par Nicolas Sarkozy. On avait appelé ça chantier du cinquième risque. Je vous laisse peut-être réagir et puis je donnerai quelques éléments de clarification. Daniel Cabanis.
Bon, comme je suis la plus vieille, c'est normal, je suis la plus vite, rapidement concernée par tout ça. Trêve de plaisanterie. Je crois que le problème qui se pose et qui sans doute a été mal anticipé, c'est que, bien sûr, il y a le vieillissement de la population, il y a un certain temps qu'on le sait, et qu'on n'a pas encore touché le fond de cette évolution. En revanche, ce qu'on n'a pas anticipé, c'est qu'on s'est orienté vers une politique d'entrée en maison de retraite de plus en plus tardive, parce que c'est vrai que ce sont des opérations psychologiquement lourdes pour ceux qui doivent les subir, financièrement lourdes pour eux ou pour la société selon la répartition de la charge financière. Mais enfin, globalement, ça revient à peu près au même. Or, les gens qui arrivent vraiment dans la plupart des cas, arrivent en mauvais état. Donc, ils ont besoin d'énormément de soins. Donc, à moyen constant, on a une qualité qui, en fait, diminue parce que ce sont des gens qui requièrent une aide plus importante que ce qu'on avait à peu près calculé lorsqu'une part non négligeable des personnes en maison de retraite était encore relativement valide. Or, aujourd'hui, les gens qui...
Excusez-moi, je comprends pas, parce que s'ils rentrent plus tôt, ça va coûter encore plus cher. Ça fera encore plus d'années en maison de retraite, donc oui, ça ne réduit pas le budget.
Non, mais simplement le fait qu'ils coûtent quand même cher parce qu'ils sont aidés, chez eux. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont complètement autonomes. Aujourd'hui, combien de personnes âgées bénéficient, et c'est très bien ainsi, d'une aide, d'une assistance à domicile qui est supposée coûter moins cher à l'État que la résidence en EHPAD ou autre maison de retraite. Simplement, dès lors que ceux qui entrent sont de plus en plus dépendants, par tête, le besoin est de plus en plus grand. Or, les moyens, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'ils aient vraiment diminué, mais ils n'ont pas augmenté en fonction de ces moyens, de ces besoins-là.
Voilà, en tout cas, la ministre, donc, ministre de la Santé, c'est ça, hein, a annoncé donc une enveloppe de 50 millions supplémentaires, et en plus des 100 millions qui sont inscrits au budget 2018, mais les syndicats ont dit que c'était un pansement sur une jambe de bois, là aussi. Je rappellerai juste un détail pour les soins assurés. En EHPAD, en fait, médecins et infirmières, c'est pris en charge par l'État, les aides-soignantes, c'est pris en charge par les départements, et le reste par la famille. Ça fait respectivement 37, 18 et 59 euros pour 114 euros par jour. Et donc là, en fait, on sent bien derrière ça qu'il y a des équilibres. Mmh. L'État donne moins, les départements doivent assumer davantage. Bref, il n'y a pas de sous et on se bat. Tanguy-Marie Pouliquen.
Donc on est confronté à la rareté des ressources. Mais de quelles ressources s'agit-il ? On parle ici surtout des ressources financières, mais les vraies ressources ne sont-elles pas humaines. Ailleurs ? Lorsqu'on vit avec des gens d'autres cultures, d'Amérique du Sud, d'Afrique, ils sont hyper choqués par l'accompagnement des aînés en fin de vie. Je pense qu'il y a une question culturelle et positivement culturelle qui est posée à notre société à cause du vieillissement de nos aînés, c'est la capacité de la place de nos aînés dans nos familles. Et donc, on pourrait appeler, et ça a été réfléchi en son temps, à une grande loi de l'intergénérationnalité. Une grande loi de l'intergénérationnalité qui serait soutenue par des aides fiscales, qui viserait à accueillir le plus longtemps possible nos parents, nos grands-parents, dans nos familles, ce que font déjà tous les agriculteurs dont on vient de parler,
oui, leurs parents. Bien des personnes à la retraite qui ont le temps de s'occuper de leurs parents très âgés.
Avec la ferme dont j'ai parlé tout à l'heure, pendant 10 ans, le fermier a accueilli sa maman à Alzheimer. Voilà. Et donc une loi intergénérationnelle qui rendrait honneur à la richesse de nos aînés dans leur vieillesse, à leur capacité de transmettre une culture et une sagesse aux générations qu'ils ont engendrées. Et d'enrichir finalement la vie familiale, la dignité de chaque personne, la richesse des pauvres, et tout le monde serait gagnant, l'État aussi. Et d'un point de vue pratique, ça pourrait donner des emplois à des personnes qui seraient sans emploi et qui seraient aidées par l'État pour accompagner leur famille jusqu'à son terme.
Alors, même si c'est pas votre famille, mon petit doigt m'a dit qu'à la communauté des Béatitudes à Blagnac, vous aviez pendant un temps accompagné les religieuses âgées, qui étaient la précédente communauté sur place. Je sais pas si c'est le père Tanguy-Marie Pouliquen qui s'en est occupé en direct, mais bref, vous avez en tout cas peut-être donné l'exemple.
Et aujourd'hui, on a créé dans le monastère à Blagnac un lieu où nos sœurs aînées maintenant sont accompagnées jusqu'à leur fin de vie. Elles vont pas aller dans les institutions, elles vont être accueillies dans la famille, quoi. Mmh. Et elles sont à table avec nous.
Anne de la Doucette.
Alors moi je sais, je pose la question de. Avant on avait c'était l'Hôtel Dieu, la Maison de Bon Secours, c'était des hôtels, des maisons de charité qui recevaient des personnes âgées. On a vu qu'avec notre société ça a changé. On est passé aux EHPAD. Le terme EHPAD est un peu une technostructure. On trouve que plus le temps passe, plus le côté structure, financier prend le place sur l'humain. Avant, on faisait par charité, maintenant on parle de la dignité des personnes, mais qu'est-ce qu'on parle par dignité des personnes ? Je rejoins un peu le père Tanguy-Marie en disant, est-ce que ce n'est pas un modèle à revoir ? Est-ce que peut-être qu'on fasse moins attention, peut-être toutes ces normes sanitaire, de vie, on vaccine, on contrôle pour que la personne vive le plus longtemps possible, sans tomber dans l'euthanasie, c'est pas du tout ça que je veux dire, hein, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt favoriser l'humain par rapport aux technostructures. On demande à toutes les maisons de retraite de refaire des installations comme ceci, comme cela. Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser peut-être être peut-être un peu moins exigeant parfois sur des installations et donner plus de capitaux pour l'humain et pouvoir aider les gens à rester chez eux en les aidant à faire des installations?
Bref, de placer le débat, puisque c'est vrai que ce qu'on lisait beaucoup dans la presse, c'est comment financer le papy-boom à venir. Donc il y avait les journées de solidarité supplémentaires, le recours de succession, la création d'une branche supplémentaire de la sécurité sociale, voire les assurances privées. Peut-être n'est-ce pas l'entièreté de la réponse. Pour finir...
Attends, et puis ce que je veux dire, c'est que le problème aussi des éclatements des familles ne facilite pas, malheureusement, la prise en charge. Et beaucoup, beaucoup de personnes âgées se retrouvent toutes seules. Et ça, le modèle familial est aussi peut-être responsable, ou l'éclatement du modèle familial n'arrange pas la situation.
Mais même sans famille éclatée, simplement parce qu'on se déplace.
Oui,
même des familles
la
qui
mobilité,
s'entendent.
Oui, mais une famille de 3-4 frères et sœurs, moi je sais que ma grand-mère avait 6 filles, et bien il y avait une espèce de roulement qui se mettait entre, elle était restée chez elle, et un roulement qui se mettait entre les enfants pour subvenir aux besoins de présence, d'assistance. À partir du moment où la famille est explosée, on n'a plus le lien avec les uns et avec les autres. C'est compliqué. C'est encore plus compliqué.
Oui, puis alors là, le fait, et je plaide coupable, que les femmes travaillent. J'entends, il faut être juste. C'est plus facile quand il y a un des deux dans un couple qui n'a pas d'activité professionnelle, où on peut aménager son temps. Si vous êtes à 600 km de votre vieux père et que vous travaillez, vous pouvez dire que vous y allez un week-end par mois, si vous êtes 4 dans la famille, mais vous ne pourrez pas y aller beaucoup plus, parce que le reste du temps, vous occupez
bien
de vos
sûr.
Propres enfants.
Bien sûr, mais maintenant, les personnes âgées très dépendantes ont plutôt entre 85 et 90 ans, et ont souvent des enfants qui eux-mêmes sont retraités. Alors,
par contre,
ils ont leurs petits-enfants à gérer les vacances.
On gère beaucoup les petits-enfants,
donc c'est
plus
une
que les
problème.
Vacances.
Oui. C'est des emplois à plein temps, c'est vrai.
On voit que c'est du concret. Alors, je voulais qu'on parle des prisons, mais il ne reste même pas 5 minutes, donc ça fait un peu court. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention dans cette actualité du dernier mois qu'on n'a pas évoqué là et que dont vous voudriez parler à l'antenne?
Eh ben moi, les prisons, comme les EHPAD, comme beaucoup de choses, comme les retraites, ce sont des sujets qu'on aurait dû traiter en amont il y a 30 ans et qui a eu une...
Comme les agriculteurs, donc
comme
en fait,
les
vous êtes d'accord avec moi.
Comme les agriculteurs.
Merci.
Et on sent qu'il y a eu quand même une défaillance, il faut dire, du politique depuis 40 ans qui, pris par ces élections multiples auxquelles il voulait être réélu, on peut comprendre, c'est humain, n'a pas pris vraiment les mesures alors que toutes les études ont été faites. On prend des études, on les publie, puis on les laissait de côté. Et... Pardon, Tanguy, pas d'accord.
Tanguy Marie.
Au-delà des solutions administratives, financières, d'organisation, je pense qu'on pourrait revenir du one-to-one, la relation entre les personnes en difficulté, la bienveillance, dire du bien, encourager, dialoguer, voilà. Et je pense que la vraie richesse...
Quel est le rapport avec les sujets-là, juste? Ben, pourquoi c'est une solution politique, c'est...
Non, c'est une décision, c'est pas une décision politique, c'est une
solution
décision
politique.
Sociétale, c'est une posture sociétale, qu'au lieu de vouloir trouver des solutions dans des questions administratives ou financières, que la principale solution, elle est relationnelle. Elle est avant tout, s'il y a une qualité de relation entre les acteurs de terrain, entre les personnes concernées, il y aura peut-être par derrière une demande, des revendications qui baisseront. La vraie richesse, elle n'est pas d'abord politico-financière, etc. Elle est relationnelle. Et à ce niveau-là, il y a quand même depuis un certain temps des éléments d'une contre-culture qui se met en place.
Qu'est-ce que ça changerait pour l'un des problèmes évoqués, par exemple?
Ben, c'est-à-dire que ben, si on se dialogue et si on s'estime entre gardien de prison et prisonnier, ben, la violence va baisser. S'il y a une proximité...
Enfin, quand on est trois par cellule, c'est un peu compliqué. Mais
non,
c'est...
mais on n'en est pas trois. On n'en est pas trois dans...
Deux à trois pour les maisons d'arrêt. C'est...
Oui,
1500 par terre, je crois.
Voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des questions... mais je pense que le climat du vivre ensemble préside souvent à la non-revendication de... Voilà,
alors,
au non-rapport de force.
Alors, je crois pas qu'il y ait pas de volonté. Il y a sûrement une volonté. Moi-même, je l'ai vu au moment de tout ce qui est des redistributions alimentaires. Je pense que les structures étatiques les normes sont tellement complexes que ça annihile des volontés de faire des choses. Quand vous voyez ce qui est obligatoirement jeté par des magasins comme nourriture, c'est révoltant, et ou qu'il faut des camions frigorifiques pour transporter les aliments, alors vous allez faire 2 kilomètres. Mmh. Et on neutralise toutes les bonnes volontés et les possibilités d'action. Mmh. Alors peut-être que l'État devrait anticiper, mais aussi laisser les gens plus libres. Et on est de moins en moins libre pour agir.
Simplification, dialogue, bienveillance, bref, autant de pistes pour l'amélioration du climat politique français et peut-être des postures qui peuvent aider à des solutions politiques. Merci beaucoup d'être venu au micro Vivante Église ce matin pour parler de l'actualité et rendez-vous le mois prochain, peut-être pas vous tous, mais en tout cas certains. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.